Bienvenue à nouveau à cet enseignement du soir. Alors, l'exposé de ce soir va traiter de l'attitude en accord avec les conditions. Une attitude qui va aider à être en accord avec les conditions. Comme on le sait, on a beaucoup développé l'attention consciente, on a aussi beaucoup développé la tranquillité. Je ne sais pas ce qu'il en résulte de ces deux qualités qu'on a cultivées pendant ces quelques jours jusqu'à présent. Mais là, on est vraiment dans la retraite. Et ceci devrait nous donner la capacité de percevoir un petit peu plus clairement ce qui est présent en nous-mêmes, c'est-à-dire la réalité. Cette réalité, elle se situe au-delà de nos jugements. Et ça, je crois que c'est tellement important de considérer que les conditions comme elles sont, elles ne sont pas basées dans nos jugements, dans nos évaluations, dans nos modes de fonctionnement habituels. Et très souvent, on vient dans une retraite comme celle-ci ou une situation comme celle-ci avec les mêmes attitudes. C'est normal, hein? Donc, on a ces mêmes attitudes parce qu'on a des habitudes. Et donc, ces habitudes, eh bien, forcément qu'on va aussi les rencontrer ici. Donc, il est heureux de percevoir que nous n'avons pas besoin de nous situer et surtout nous approprier ces jugements et ces modes de fonctionnement. Donc, c'est un petit peu le thème de ce dont je vais parler ce soir. Naturellement que quand on parle d'un thème, eh bien c'est celui qui nous parle en ce moment, donc une attitude qui va en accord avec les conditions, c'est certainement pas celle que j'avais pu imaginer il y a 3 mois. Mais une retraite aussi longue que celle-ci, elle nous aide véritablement par moment, et je pense beaucoup plus souvent qu'on le souhaite, à repérer les attachements que nous avons à propos de nos idées de progrès et de transformation. Avez-vous des idées de progrès, de transformation? Voilà. En 2 mots, ce qui devrait se passer. Parce que c'est évident que on vient ici avec une aspiration, un souhait. Je crois qu'on est assez semblables hein, pour ça. Je veux dire, levez la main, celui ou celle qui est là, sans aucun souhait, aucune aspiration. Aucun désir de transformation? Voilà, personne. Vous êtes sûr? Donc, au début d'une retraite, cet aspect-là, en tout cas pour ma part, est très présent. C'est incroyable combien on peut arriver, et bien sûr qu'on a mis tout en place pour être là, et on a aussi naturellement eu des idées par rapport à la retraite. Et donc ce désir de changement, il est souvent très fort au début. Et c'est bien de le percevoir. C'est vraiment absolument indispensable que de s'en rendre compte plutôt que d'être dans l'ignorance par rapport à ceci. Donc on arrive avec des attentes, des expectatives, et puis très souvent, si on n'a pas à cœur d'explorer un petit peu plus clairement ce qui se passe, nous allons avoir un figement, une crispation par rapport à ce désir de changement. Voilà, ça va coincer. Et comment ça se passe quand ça coince? Eh bien, très souvent, il y a des pensées récurrentes, discursives, qui vont aller au contact de ce sujet-là. Sans s'en rendre compte, on se pose la question, est-ce que je change? Est-ce que ma méditation d'aujourd'hui est meilleure que celle de hier? Cette assise d'après-midi de métta, est-ce qu'elle était meilleure, cette assise de métta, par rapport à la dernière fois que j'ai fait une retraite de métta? Et c'est extraordinaire de percevoir que si on rigole, c'est qu'on a ces manifestations, vous comme moi. Mais il ne s'agit pas de ne pas les avoir, il s'agit de les reconnaître. De les reconnaître et surtout de les prendre pour ce qu'elles sont. D'où proviennent-elles? Ce sont des pensées. Donc en amont, la question est la suivante, c'est est-ce que ma méditation correspond à mes attentes? Est-ce que ma méditation correspond à mes attentes? Et que ceci est la question. Et si nous avons à cœur de vraiment être honnête, justement, on a dit l'honnêteté, la sincérité, c'est quelque chose de tellement essentiel, hein. C'est un parami d'ailleurs. Un parami, c'est-à-dire une qualité vertueuse. Et donc, d'être extrêmement honnête, sincère par rapport à soi, eh bien, souvent, elles ne vont pas correspondre à des attentes. Parce que les attentes, elles ne sont absolument pas en accord avec la réalité. C'est-à-dire que très souvent, elles vont dépasser notre réalité de ce qu'on rencontre. Donc cette tendance, elle est à remarquer et elle est surtout à prendre en compte s'il y a une fixation par rapport à un objectif particulier. Et c'est ça qui se passe. C'est que généralement, on attend un résultat particulier et on mesure ce qui se passe par rapport à ce qui devrait se passer, c'est-à-dire que ça ne correspond pas au résultat qu'on aimerait obtenir la plupart du temps. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc ça fige, donc ça crispe. Donc il y a là toute une dimension de prise en compte parce que c'est le mental lui-même, c'est-à-dire les pensées qui sont le piège et non pas la réalité. D'accord? Ce sont ces pensées-là qui vont devenir l'emprisonnement, le piège. Je cite le Bouddha. Je ne vois aucune chose qui puisse faire autant de mal qu'un esprit non cultivé, c'est-à-dire non entraîné. Eh bien, on le voit hein, dans le monde. Mais une fois que l'on a compris ceci, je ne conçois pas d'amis plus précieux qu'un cœur et un esprit bien cultivés. Vous vous rendez compte qu'on peut rendre notre esprit cultivé, formé, et qu'il devienne un ami précieux. Donc rendre de son esprit un ami, c'est en tout cas une considération que vous pouvez avoir ici, au niveau de la perspective, hein, la perspective de la possibilité d'une attitude qui est en accord avec les conditions que nous propose le Bouddha. Donc l'un des principaux avantages justement du développement de la tranquillité, et qu'on a proposé ceci en début de retraite, c'est-à-dire du rassemblement, de l'énergie, quelque part cette dimension, comme on peut l'appeler aussi, de un petit peu plus de calme, un petit peu plus d'unification au contact de ce qui se passe, eh bien, va nous aider à quelque part calmer l'habitude de cette prolifération. L'habitude de la prolifération des pensées discursives qu'on connaît tous, hein, de la dispersion de notre énergie mentale et physique. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a effectivement eu quelque chose par rapport à l'invitation de commencer avec l'attitude plus de quelque part de calme ou de tranquillité? Vous avez remarqué? Levez la main. Oui? Oh, pas mal de gens, super. Donc, servez-vous-en parce que c'est vraiment très, très aidant. Il y a naturellement cette dimension d'un alignement, comme j'ai pu en parler l'autre soir, comme on en parle aussi, comme en parle Charles, cette dimension d'être déposé, de pouvoir reposer dans l'expérience présente. Et que si on ne cesse de s'agiter, eh bien, quelque part, c'est ça qui va créer plus de prolifération. Donc, c'est un avantage que de développer la tranquillité par moment. Ensuite, il y a cette qualité de pleine conscience qui va venir éclairer ce qui se passe. Donc ces deux attitudes sont complètement reliées l'une à l'autre. C'est comme les deux côtés d'une même main. Il y a vraiment deux faces. Elles sont tranquillité ou concentration et pleine conscience vont amener à la sagesse ou à la vision pénétrante. Donc il est utile pour nous d'éclairer et de réfléchir sur ce rapport que nous avons avec ce processus de recherche du changement. Je crois qu'on a chacun, chacune le nôtre. Il a des particularités de par notre historique, hein, de par notre vie, nos vécus. Et il me semble important, pour nous tous, à ce moment-là, on a ce point commun, de discerner, de distinguer entre deux types de désirs. Il y a un désir qui est un désir aspiration. L'aspiration, le souhait, tout à fait louable et bénéfique et absolument heureux, qui est porteur, qui fait que s'il n'y avait pas eu de désir, vous ne seriez pas là, hein. C'est clair. Donc il y a naturellement là toute une manifestation de quelque chose qui nous porte, le désir de se lever le matin, le désir de quelque part avancer, progresser, comprendre, être généreux, enfin tout ça est tout à fait bénéfique. Et ce désir-aspiration va nous aider à nous ouvrir, à accueillir les conditions comme elles se présentent. Va dans le sens de ce qui se passe. Ensuite, il y a un autre désir qui est ce désir-attachement dont on a entendu parler quelquefois. Le désir-attachement, qui ici, par rapport à ce qui est décrit, est repéré par une dimension de volonté forcée, qui veut imposer un changement. Donc quand on veut imposer un changement, bien naturellement qu'ici, il y a une saisie. Et c'est la saisie souvent qui est située dans le « moi-je », dans l'ego. Et c'est exactement là que l'ego va se manifester lorsqu'il s'approprie ses pensées dont j'ai parlé préalablement. Ça dit quelque chose de moi, de comment je fais, comment je suis, qui je suis. Et donc naturellement, ceci crée une crispation. Et cette crispation, eh bien, il est important de la reconnaître et de l'intégrer. Ce n'est pas de ne pas la voir. Elle va émerger. À un moment donné ou à un autre, c'est évident qu'elle émergera par rapport à un vécu, par rapport à un récit, par rapport à une histoire qu'on se raconte, par rapport à une douleur, par rapport à tout. Donc, très tranquillement dans la méditation, on va essayer de rester. Et vraiment, je vous conseille le matin, moi je le fais tous les matins, où je suis là et puis je suis dans une perspective de « Ah, cette journée qui commence, comment est-ce que je suis en lien avec moi-même, comment est-ce qu'elle se présente, prise des refuges, et puis tout simplement me relier au Dharma, au Bouddha, à la Sangha, voilà. » Ça. Et puis ensuite, cette extraordinaire capacité de pouvoir prendre un petit temps de réflexion par rapport au désir-aspiration, de pouvoir laisser les expériences émerger aujourd'hui comme elles émergent, être en accueil des conditions comme elles sont. Et c'est immensément aidant que d'avoir cette intention. Si vous voulez, cette aspiration, c'est une intention, c'est une motivation qui va dans le sens de pouvoir s'aligner avec ce qui va se passer, dans la mesure du possible. Bien sûr qu'on oublie, hein, ça n'a aucun doute que d'ici 10 heures le matin, on a déjà oublié qu'on a pris cette belle résolution. Mais il n'empêche que lorsqu'elle se répète, eh bien, il y a quelque chose qui se transforme. C'est justement là qu'il y a une bonne disposition d'esprit pour percevoir qu'il y a quelque chose qui se manifeste, qui est différent que simplement cette soif de vouloir autre chose que ce qui est là. Donc on va naturellement sentir que cette désir, ce désir aspiration, ce souhait ou cette intention est bénéfique. Et très souvent, l'image qui est employée, c'est l'image du soin qu'un jardinier prend pour favoriser la croissance des plantes dans son jardin. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, si vous êtes déjà frotté à la nature, à la terre, avec tous les éléments qui sont là, mais c'est extraordinaire combien il faut des conditions autres que celles que moi, je choisis pour faire pousser mes plantes. Il y a mille et une conditions. S'il y a du soleil, s'il y a naturellement de l'eau, la qualité de la terre, enfin voilà, tout ça va entrer en compte. Eh bien, pour nous-mêmes, c'est exactement ça aussi. Si on a bien dormi, si on n'a pas bien dormi, si on est bien disposé au niveau de notre, notre esprit, tout ça est à prendre en compte. C'est tellement important. Donc, ça n'a rien à voir avec la volonté. Bien sûr qu'il faut une certaine énergie, hein, un effort est nécessaire, mais pas cette volonté forcée. Donc, on prend soin de notre jardin intérieur et on protège nos qualités d'une manière qui fait qu'à ce moment-là, il y a un grand respect de ce qui est là. Tout simplement parce que c'est là pour une raison. C'est là pour qu'on y prête attention. Donc ce jardinier, eh ben, il ne va pas tirer sur les pétales pour que les fleurs poussent plus rapidement. Moi, j'ai un tout petit jardin là, à la vallée de Joux. Mais la vallée de Joux, c'est une région assez froide. Hein. Ben, je peux vous dire qu'en avril, je suis déjà en train de regarder. Et puis en fait, les premières fleurs arrivent en juillet. Donc vous voyez, c'est extraordinaire tout le temps qu'il me faut pour ce souhait, cette aspiration à avoir une première rose. Et cette année, ben, Charles m'a envoyé une photo parce que je n'y étais pas. Voilà ta première rose. Donc laissez quelque part le rythme du fleurissement, laisser vraiment le rythme, le respect, c'est empli de patience quelque part. C'est vraiment incroyable combien ça en revient à ceci, et je sais que j'ai déjà mentionné ça, mais le processus, il est semblable pour nous tous. Il prend du temps et on a la chance d'avoir un peu plus de temps que des plus courtes retraites. Et je sais que pour certaines personnes, ben, 15 jours déjà, c'est une première. Et donc, c'est évident que ça va se dérouler d'une certaine manière. Donc, le désir d'attachement, dans un autre sens, ben, comment est-ce qu'on peut le décrire? On le décrit de la manière qu'on ne s'en rend pas compte peut-être, mais on est constamment en train d'interférer. Ou si ce n'est pas constant, très souvent. On interfère en fait en croyant qu'on va s'aider. Dans le sens que vraiment, « Ouah, mais je vais vraiment m'aider là, je vais faire pour hein, !» Comme je connais l'habitude. Et la plupart du temps, on voit bien que ça ne va pas dans le bon sens. Donc on interfère sans s'en rendre compte avec des stratégies de manipulation. Et on va naturellement essayer d'aller dans le sens, et ça c'est tout à fait humain, normal, dans le sens de faire croître le plaisant et de faire diminuer le déplaisant. Et pour nous tous, c'est exactement ceci qui se passe. On va tout à fait chercher le plus en plus ce qui est sympa, plaisant. Hein. On était tellement contents de voir le soleil aujourd'hui, non ? C'était dit et fit si de la pluie. Ben, elle va revenir la pluie, hein, je peux vous dire. Donc voilà, il y a vraiment là à vivre, à quelque part se frotter. Mais voilà, ici ça peut être la pluie qui nous déplaît, qui n'est pas très facile comme condition. Dans notre quotidien, ben, ça va être autre chose. Mais il y aura toujours quelque chose. Il y aura toujours quelque chose. Donc, on prend en compte cet aspect de dire, en fait, c'est incroyable combien je suis agrippée et attachée à vouloir toujours du plaisant. Que ça corresponde à ce que je veux moi aujourd'hui. Parce que demain, ça peut être différent. Ben, reconnaître ceci est très important. C'est vraiment absolument essentiel parce que ce sont des repères pour moi. Dans le sens que si on ne repère pas ça, eh bien, on continue la spirale du figement, de la crispation et voire de la cristallisation. C'est-à-dire quand c'est cristallisé, hein, c'est bien solide. Donc, qu'est-ce qu'il en résulte ? Ben, du mal-être. Mais du mal-être qui va naturellement être quelque chose qu'on peut éviter. Donc, on peut se poser une autre question. Toutes ces questions que je vous invite à vous poser, je me les suis posées. C'est évident, je ne peux pas vous donner quelque chose que je ne vais pas moi-même explorer. Donc, quel est mon rôle dans ce processus? Si ce n'est pas interférer, si c'est être avec une attitude qui va naturellement être en phase avec les conditions, on peut se poser la question de notre rôle, parce qu'on a un rôle en tant que méditant ou méditante. Donc dans ce processus, je crois qu'il y a pas mal de manières dont on peut décrire notre rôle. Notre rôle, c'est déjà, comme on dit en anglais, to show up. C'est-à-dire se pointer au rendez-vous. Hein? C'est chouette ce terme. Hein? C'est, ah ouais, venir. Ben, on est ici. Mais il y a mille manières de venir. Arriver, ça veut dire, ok, je peux arriver, puis voilà, complètement zapper, passer mon temps à penser à je ne sais quoi. Donc, show up, ça veut dire vraiment d'autres choses que simplement être sur le coussin. Ça veut dire être intéressé par ce qui se passe, être curieux du processus. Donc, ce rôle-là, il est important, parce qu'on peut très bien être dans un évitement évident sur un coussin de méditation. Éviter notre propre existence, éviter la vie en général. Il y a bien des personnes qui utilisent la méditation comme stratégie d'évitement. Donc le rôle là, il est absolument essentiel dans le sens de se poser la question « Ah mais oui, j'ai un rôle !» C'est quelque part de se pointer au rendez-vous, puis ensuite de nourrir ce qui va aller et ce qui va m'aider à aller dans le sens de une plus grande liberté, une plus grande compréhension, une plus grande relation dans le sens de la qualité de la présence dont Charles a parlé hier, de ne pas s'absenter, il a parlé de présence-absence, ça veut exactement dire ça, et de s'aider dans le sens de nourrir tout ce qui va nous aider à rester au présent. La tranquillité nous aide à demeurer au présent. La bienveillance nous aide à rester au présent. La patience nous aide à rester au présent. Dans ce sens-là, il y a à nouveau cet aspect d'une protection. Protection des distractions, protection des empêchements, c'est-à-dire des obstacles. Protection du mode aversif, de se perdre dedans. Protection de quelque part, le jugement, l'esprit critique, dans le sens nuisible, pas un esprit critique qui discerne, ça n'a rien à voir. Donc là, il y a naturellement quelque chose qui est complètement différent du fait d'imposer un changement. Donc on a un rôle, c'est évident qu'on a un rôle. Mais un rôle qui n'est pas basé dans une ambition. Un rôle qui n'est pas basé dans un objectif figé, fixé, un résultat pour enfin se débarrasser de ce qui m'encombre. Parce que si c'est imposé, eh bien c'est exactement là que on va avoir quelque part une relation qui va dans le sens contraire qu'on souhaite. Donc on plaque une idée sur ce qui devrait se passer, et puis bien sûr que ça ne va pas se passer. Hein. Ce qui devrait se passer, enfin, ne va pas se passer, ce n'est pas possible que ça se passe, puisqu'on est figé dans cette idée de ce qui devrait se passer. Et ça, c'est important parce que ça fige tellement que ça empêche de vivre et de laisser éclore la dynamique du processus. Il y a une dynamique dans ce processus. Même dans l'immobilité, c'est incroyable. Ça pulse, c'est mouvant, c'est impermanent, c'est changeant. C'est comme le temps ici, hein, il est très changeant. Ça bouge tout le temps, hein. Je veux dire, c'est génial. Ça, c'est l'aspect que j'aime beaucoup ici. C'est que il y a vraiment beaucoup, beaucoup de différents types de temps. Et ne pas figer cette dynamique. C'est vraiment là, j'ai pris ce soir l'exemple de la métaphore de la rivière que le Bouddha utilise très souvent comme exemple de, comme on dit, d'être dans le flow, hein, le flux, dans le processus, et justement qu'on n'est pas du tout un monolithe. Donc le Bouddha a souvent choisi la métaphore de la rivière, et ça va bien, vous pouvez y aller à la rivière, là, la regarder. Et il a pris la rivière pour décrire le processus du chemin. Il dit « Entrer dans la vie spirituelle est comme entrer dans un cours d'eau qui transporte jusqu'à l'océan. Tout ce qui nous est demandé est d'entrer dans la rivière, donc d'entrer dans le chemin. Et de s'y intéresser, d'y demeurer. L'attention, la tranquillité, la confiance, la clarté nous aideront ensuite à flotter dans la rivière. » Donc on doit s'appuyer sur ces qualités. Et non pas sur l'avidité, l'attachement, l'aversion, c'est ce sur quoi on s'appuie habituellement. Là, il y a vraiment d'autres points d'appui, d'autres supports. Ces supports qu'on cultive ici et qui sont nos repères, nos ressources, je dirais même. L'attention, la pleine conscience, la tranquillité, il nomme, la confiance, la clarté, nous aident ensuite à flotter dans la rivière. Une fois que nous flottons, il n'y a plus d'effort à fournir. La nature même de l'eau nous transporte vers l'océan. Si nous luttons contre le courant, nous nous épuisons. C'est ce que nous faisons dans notre vie sans nous en rendre compte. Donc d'aller à contre-courant, c'est quelque chose que l'on va peut-être éprouver par moment dans notre processus méditatif. C'est-à-dire lutter, combattre, s'opposer. C'est normal! C'est complètement normal, c'est comme ça qu'on va apprendre à ne pas lutter. Je veux dire, comment on apprend la patience, ben c'est quand on se frotte à l'impatience, hein. En tout cas moi. C'est vraiment extraordinaire que c'est comme ça qu'on va apprendre. Donc c'est pas « Ah, mais il ne faut pas que je lutte ». Non, comment c'est la lutte? Ben, la lutte, c'est épuisant. Donc on alimente juste assez d'énergie pour être au contact de l'expérience présente, afin de s'accorder à ce qui se passe, afin de pouvoir être réceptif, tranquillement être au milieu du courant, au milieu de la tourmente, s'il y a une tourmente, et il y a la tranquillité, il y a la confiance, il y a l'attention. Tout ceci est là. C'est pas où, où. Vous voyez ce que je veux dire par là ? C'est que c'est vraiment quelque part en lien. Et peu à peu, nous apprenons à ce moment-là à nous laisser guider, à moins interférer, à moins saisir et à être plus en accord avec les conditions comme elles sont, c'est-à-dire à accueillir. Ce qui va se passer là, c'est que ben, là, l'exemple de flotter, c'est l'exemple de la détente, c'est l'exemple de la réceptivité. C'est l'exemple de pouvoir recevoir l'expérience présente, quelle qu'elle soit, mais dans un champ spacieux, c'est-à-dire où il y a de l'espace. Tout ce qui est figé, va, quand vous sentez comme ça, rétrécé et haute, ah, vous ne respirez plus, hein? Donc ouvrir, ouvrir, élargir. Il y a tout plein d'espace. Et un de mes maîtres parlait de ceci, cet aspect extrêmement clair pour lui. L'essence de la pratique se résume en deux mots. Soyez tranquille et spacieux. Soyez tranquille et spacieux. Ben, c'est un petit peu ça qu'on a tenté d'explorer, donner tout l'espace nécessaire pour pas qu'il y ait justement un renfermement et en même temps cette tranquillité qui fait qu'on repose. On repose dans l'expérience. Je vais citer Nishul Ken Rinpoche, qui est un maître de la tradition Mahayana. Il est décédé. Un maître Dzogchen. Laissez reposer dans la grande paix naturelle cet esprit épuisé, battu sans relâche par les pensées incessantes, semblable à la fureur implacable des vagues qui déferlent dans l'océan infini du samsara. Laissez reposer dans la grande paix naturelle. Vous vous rendez compte, cette paix naturelle? Est-ce qu'on conçoit la paix comme naturelle? Non, nous, ce qu'on conçoit comme naturel, c'est les pensées incessantes, sans relâche. Donc c'est intéressant cette façon. Il y a vraiment aussi, et on va naturellement avoir des enseignements qui vont nous aider à intégrer cette dimension de vue, la vue, comment on voit les choses, comment on les perçoit. Et à ce moment-là, c'est peut-être un tout petit peu plus facile ou audible, en tout cas déjà, de dire « Tiens, la paix, c'est naturel. » Donc, elles vont se déposer d'elles-mêmes si on n'est pas en train de constamment faire pour. Maintenant, très souvent, en tout cas pour ma part, pour ce que j'ai pu vivre moi-même pendant certaines périodes et puis que je peux entendre des personnes, c'est qu'on a peur de l'ouverture. Il y a des fois où on a peur de l'ouverture. Comme si l'ouverture impliquait qu'on se disperse et qu'on sait plus, on n'a plus de repères. Donc cette ouverture, elle est vraiment très progressive. Franchement, il n'y a pas grand-chose à craindre, ne serait-ce que l'idée qu'on en a. Qu'est-ce que ça veut dire ouvert? Ça ne veut pas dire tout ouvert et puis voilà, on ne sait plus où on est. Il y a toujours l'ancrage, il y a toujours la tranquillité, il y a toujours cette dimension du corps qui repose sur le sol, la terre qui est là. Donc ce n'est pas que tout à coup, voilà, ouf, on tombe dans un trou. Et puis qu'on ne sait pas où on va atterrir, là, oups, le puits sans fond. Hein. Ça, c'est l'image qu'on peut avoir. Ce n'est pas la réalité. Les conditions ne sont pas aussi terribles que celles que vous pouvez imaginer parfois. Donc, il y a ce sentiment d'espace, il est ô combien agréable, plutôt que faire peur. Il y a aussi plus facilement cette crainte d'être dispersé. Si justement, on parle de non-dispersion, non-distraction, on se dit oh, « si j'ouvre ». Non, justement, on va explorer qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'avoir un sentiment d'espace qui permet d'accueillir et puis qui très tranquillement va avoir de nouveaux repères, nouveaux repères. Pas tant un figement dans moi, le petit ego, le petit jeu là, qui a toujours besoin de dire quelque chose, s'exprimer, se repérer. Et c'est extraordinaire à ce moment-là. On vit dans l'être que nous sommes, l'être tout entier, et pas juste rétréci dans une partie de notre être. Donc ce sentiment d'espace, je crois que c'est très intéressant de l'explorer. De l'explorer physiquement, mais aussi l'espace dans le mental. Comment je peux donner de l'espace aux pensées qui émergent? Tiens, elles ont l'espace d'exister, elles ont l'espace de pouvoir émerger et s'en aller, et pas immédiatement mettre un jugement, un ajout de critique et autres. Non, il y a l'espace pour ces pensées-là aussi. Même les plus néphrotiques. Vous vous rendez compte? Tout a le droit d'exister. Donc ça implique à ce moment-là un rôle de non pas d'exigence, mais au contraire, ou d'attente, mais de consentement. Il y a là, waouh, ok, je dis, quand je dis je consens, je consens. Ça, c'est une de mes phrases. Hein. Je consens, c'est vraiment ok. Alors, je n'ai pas besoin de dire je consens, non. Ah, du consentement. Ça veut dire que vraiment, il y a une acceptation véritable de ce qui émerge, tout simplement parce que ça émerge. Ça nous aide dans le sens de demeurer dans l'espace, mais aussi de se stabiliser un tout petit peu plus dans l'être, l'être qui inclut toute chose. Maintenant, ce sentiment d'espace, il va vraiment provenir de ce que je permets, de ce que j'autorise, de ce que j'accepte, de ce que j'accueille. Donc, c'est vraiment une attitude d'enveloppement, de soin, de beaucoup de respect, et vraiment beaucoup de respect envers nos états douloureux. Parce qu'on a tous des états douloureux. Qui n'en a pas? Qui n'en a pas? On a chacun une belle composition. Elle est unique dans ce cas-là. Mais voilà, tout ce qui peut émerger. Donc, tout, absolument tout peut être reçu si nous ne sommes pas constamment dans un rapport de lutte, de combat, d'exclusion. Rendez-vous compte à ce moment-là, quand il y a un manque d'espace, exactement l'inverse de ce que je suis en train de décrire par rapport à l'espace, combien on est tendu et combien à la fin on est épuisé. On n'en peut plus. Ça lâche à ce moment-là, hein, souvent. On est tellement épuisé que... Et on retrouve quelque part une nouvelle énergie de cet espace d'épuisement. Mais peut-être que des fois, il faut en arriver là, et puis il y a un rebond. C'est tout à fait possible que c'est déjà arrivé pour vous, et que c'est ok aussi, ça. Et qu'il y a quelque chose d'une renaissance, de neuf, d'un renouveau qui peut émerger de ça. Donc, si il y a un effort à faire, c'est évident que oui, ça demande du courage. L'effort ici, c'est du courage. Et c'est exactement ce terme de viriya qui est traduit par avoir quelque part une certaine vigueur, une vigilance pour sortir des états d'habitude, des schémas d'habitude, de ce qu'on connaît si bien. Maintenant, non pas pour en vue d'un résultat à obtenir absolument, ça c'est vraiment le piège, ah voilà, je vais faire ça pour obtenir. Non, pour simplement accueillir ce qui se présente. Pas faire la méditation pour obtenir ce que je voudrais obtenir. Ça revient à dire que à ce moment-là, il y a beaucoup de réactivité. Donc en conclusion, qu'est-ce que c'est qu'une bonne pratique ? On se dit, ah, mais ça veut dire quoi, un bon méditant ? Une bonne méditante ? Ben, ça ne veut rien dire du tout. C'est un fantasme. Alors on a chacun le nôtre. C'est l'histoire qu'on se raconte par rapport à voilà, ce qu'on... petit peu plus de sel, de poivre, voilà. Je fais la petite salade, puis on se dit, ah, ça doit être un bon méditant, bonne méditante. Puis ici, on a déjà repéré quelqu'un, ah ouais, le modèle, ouais. Bon méditant. Voilà, ça c'est... Mais franchement, ça ne veut rien dire du tout. Je peux vraiment vous assurer, ayez confiance dans ces mots, en tout cas ceux-là, ça n'existe pas. On apprend, et vraiment toutes les expériences, toutes les douleurs, toutes les heures qu'on peut avoir, eh bien, nous nourrissent. Et on apprend des difficultés, bien plus que de ce qu'on imagine être un idéal. Donc on peut peut-être prendre ces mots et puis les explorer pendant nos méditations, réfléchir, puis aussi surtout les mettre en pratique. Chöndrang Trungpa, il disait « Votre méditation débutera véritablement lorsque vous rencontrerez l'ennui. » Est-ce que vous êtes déjà ennuyé? Elle va débuter au moment où vous allez rencontrer l'ennui. Pourquoi? Il répond à la question. Car lorsque vous commencez à rencontrer l'ennui, vous ne serez plus à la recherche du divertissement. Vous comprenez ceci? C'est-à-dire qu'on ne cherche pas autre chose. À se distraire, à aller ailleurs, à chercher mieux, meilleur. Il dit « Méditer sur ceci est très judicieux. S'il y a de l'ennui, vivez-le » Laissez-vous le ressentir. C'est l'ennui qui peut amener tout droit à la tranquillité et c'est la tranquillité qui amène tout droit à l'absence de réactivité. Donc ne vous y opposez pas, ne cherchez pas ailleurs. Et je vais terminer avec un conseil que m'a donné un de mes maîtres. Moi j'ai eu pas mal de maîtres, j'ai eu cette chance. J'ai l'âge pour avoir beaucoup de maîtres. Aussi des femmes. Et ça m'a vraiment changé ma manière de voir mon propre processus méditatif. Et donc, je vous transmets son conseil. Toute la vie se déroule dans l'instant présent. Sachez simplement qu'il n'y aura rien de mieux plus tard. Ouais, une sacrée désillusion là, hein. Mais c'est fou combien on aime se leurrer, hein. Combien on aime rester dans cette illusion de « Ah ouais, meilleur voilà. !» Parce que c'est dans l'instant présent que, quand on parle de cette qualité de présence éveillée, c'est ici et maintenant qu'elle peut arriver. C'est dans notre rapport aux conditions comme elles sont, pas dans un idéal autre que généralement de perfection. Donc on est parfaitement imparfait. Et c'est absolument magnifique de pouvoir s'accueillir comme on est. Et là, cette fois-ci, c'est vraiment la dernière phrase que je vais utiliser. Elle vient de Jung qui dit « Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. » Se sentir complet. La totalité dans le sens de se sentir entier, complet, uni, unifié, pas éparpillé, fragmenté. Voilà, se sentir complet, la totalité. Cette véritable méditation, elle nous relie tellement pleinement à tous nos vécus qu'on peut faire un pas en avant dans ce sens et ressentir le bien-être quand il est là. L'absence de troubles, l'absence de difficultés, l'absence de vouloir autre chose. Et à ce moment-là, waouh, c'est assez merveilleux. C'est dans cette réalité-là que l'émerveillement peut émerger.